Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous accueillons notre évêque, Monseigneur Marc Ayé. Bonjour, Monseigneur Ayé.
Bonjour.
Bonjour, Violaine Ricourt-Dumas.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence et de Radio Lapourdi. Alors, ça fait un petit moment que nous n'avons pas eu ce rendez-vous mensuel avec vous, Monseigneur. Je crois que le dernier remontait bien avant Pâques. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles nous allons revenir avec vous. Et nous allons commencer par ce qui occupe un peu l'actualité de notre diocèse, également de la presse locale, notamment à Pau, les projets immobiliers du diocèse. Alors tout simplement, où en est-on pour le projet de maison diocésaine à Bayonne?
Alors écoutez, pour l'instant, le permis de construire a été déposé à la mairie. Et donc, je peux dire actuellement qu'il est encore à l'étude, que sans doute il méritera quelques ajustements. Donc, ça va un petit peu retarder le projet, bien sûr. Mais je rappelle quand même que ce projet, tel qu'il a été présenté dans toutes les zones territoriales, parce qu'on n'a pas présenté le projet de Bayonne seulement dans le Pays Basque, mais aussi dans le Béarn et inversement, ce projet quand même rencontre une certaine adhésion assez globale, non seulement des prêtres, qui ont été d'abord les premiers informés en détail, et puis ensuite les fidèles laïcs qui ont été invités, même si le seul reproche qui peut paraître, à mon avis, assez marginal, c'est que ça paraît, dans le contexte actuel, un projet, on a dit, somptuaire, à cause de l'ampleur du projet. Comme vous savez, le but est quand même de rassembler toutes les forces vives du diocèse, là, dans cette maison diocésaine, non seulement les services, les mouvements, mais aussi la direction de l'enseignement catholique, mais aussi la curie de l'évêché, et même l'évêché, plus la communication, etc. Enfin bon, plus des appartements pour les prêtres âgés qui, je vous rappelle, étaient l'une de nos premières préoccupations par rapport à la situation actuelle. Et donc forcément, c'est ce qui fait l'ampleur de ce projet. Mais je continue à dire, après que cela ait été quand même non seulement vérifié et démontré, que c'est un projet vertueux dans le sens où il y a une réduction de quasiment 50% de l'espace utilisé actuellement. Donc c'est quand même une chose qui mérite d'être soulignée. Dans l'actuelle maison diocésaine, nous avons quasiment 60 ou 70 chambres d'hébergement dont nous n'avons plus l'utilité et qui paraît parfaitement disproportionnée par rapport aux besoins pastoraux actuels. Et puis évidemment que ce projet est pensé de telle sorte que le coût de fonctionnement soit aussi extrêmement réduit, grâce aux nouvelles technologies que l'on utilise, l'énergie à basse consommation, etc. Je rappelle aussi que pour les deux projets de Bayonne et Pau, qui ont été étudiés avec des gens compétents, du Conseil diocésain économique qui comprend des experts, évidemment. Comptes du diocèse, qui sont d'ailleurs publics, sont, comme vous le savez, contrôlés de plusieurs manières. Nous avons d'abord un commissaire aux comptes qui en déclare la transparence et l'intégrité, mais aussi la Conférence évêque de France nous a mis de mettre en place des contrôleurs financiers qui nous permettent de faire une perspective à plusieurs années. Et donc les choses sont bien cadrées, câblées, et comme nous nous sommes engagés, nous tâchons de faire des opérations qui soient au plus possible blanches. Donc nous avons les revenus nécessaires, enfin les ressources nécessaires pour engager les travaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y avoir un différentiel, comme toujours, mais ce différentiel n'est pas inquiétant, car à court, à moyen terme, eh bien, il va y avoir des réductions de coûts qui vont permettre de retrouver l'équilibre.
Juste pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi, la maison diocésaine est vendu et tout est déplacé. Voilà, de Bayonne est vendu et tout est déplacé à Saint-Léon-de-Marac.
Voilà, toute la parcelle actuelle est vendue et la nouvelle maison est reconstruite à Marac, sur le parc Saint-Léon, hein, enfin, dans l'emplacement actuel de la maison de ce parc Saint-Léon, à côté de l'église Saint-Léon, qui demeure une église paroissiale. Voilà.
Voilà, et l'évêché, donc, sera aussi déplacé à cet endroit.
Voilà, ça veut dire que tout ce qui reste au centre-ville reste le patrimoine du diocèse, il n'est pas question de l'aliéner, mais il sera pour partie mis en location, ce qui permettra de, ben, d'assurer aussi non seulement l'entretien de ces bâtiments, mais une part du fonctionnement de la nouvelle maison diocésaine.
À Pau, donc, il y a aussi un autre projet, un projet immobilier avec l'ancienne maison des Jésuites rue Montpensier qui va être transformée en maison diocésaine. Alors, est-ce que vous pouvez là aussi nous rappeler pourquoi ce projet, donc, sachant que le centre diocésain du Béarn est fermé, il est temporairement à Saint-Joseph, mais là aussi, l'idée, c'est de vendre ce centre diocésain et de créer ce nouveau projet rue Montpensier.
Alors, je rappelle à la Genèse... Il y a un peu plus de 10 ans, déjà, le centre diocésain du Béarn posait des problèmes de mise aux normes. Effectivement très coûteuses, parce qu'il faut se rappeler que ce sont des bâtiments qui ont été construits, comme la maison diocésaine de Bayonne, dans les années 70, avec un béton très difficile à retransformer, et qui est un gouffre sur le plan énergétique. Centre diocésain qui était essentiellement utilisé par la formation permanente, par les mouvements et les services et les associations de fidèles, qui pouvait y avoir parfois un petit bureau, mais qui au départ avait été construit pour les abriter, si je puis dire, ou héberger les aumôniers d'enseignement catholique qui étaient nombreux. Donc ça veut dire que la plupart de la maison est constituée de petits appartements duplex qui n'ont évidemment plus la même utilité quand il n'y a plus cet hébergement aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de rassembler les utilisateurs, c'était la première intention, pour transformer, en se disant il faudra quand même trouver des ressources, hein, parce qu'on ne les a pas comme ça, elles ne tombent pas du ciel. Mais il y a eu un événement qui a évidemment tout bouleversé et que beaucoup ont oublié. C'est que les jésuites, qui cherchaient à vendre leur maison rue Montpensier, qui était une petite unité, devenue une petite unité de vie pour les vieux jésuites qui étaient hébergés, avec quelques laïcs qui avaient commencé à remplir cette maison, l'ont transformée en EHPAD pour pouvoir apporter leur lit aux sœurs du bon pasteur, à la maison, à l'EHPAD de Maria Consolata, afin de pouvoir y avoir un lieu pour héberger leurs jésuites âgés. Et donc ils cherchaient, et nous les avons aidés dans un premier temps à chercher une communauté qui aurait pu reprendre cette maison. J'ai fait moi des démarches personnellement auprès de la communauté de l'Emmanuel, qui quelquefois recherchait des maisons pour abriter, animer une maison d'étudiants. J'ai pris contact avec le Chemin Neuf, qui a beaucoup de liens avec les jésuites et qui a déjà repris un certain nombre de maisons de jésuites comme le Roucas Blanc à Marseille. Et puis, bon, ça a été sans succès. Donc un jour, le nouveau provincial à l'époque de la France et Belgique demande à me voir, vient me voir et dit, ben voilà, avec vous, on a cherché une solution pour transmettre cette maison. Pour ma part, je ne veux pas en faire une opération immobilière comme certains de mes prédécesseurs l'ont fait ailleurs, comme à Nantes. C'est un lieu qui a quand même été sanctifié par un noviciat, puis une maison des jésuites actifs, avec une chapelle qui a été consacrée en 1868, 10 ans après Lourdes, à l'Immaculée Conception, qui a été un centre spirituel longtemps, puisqu'on venait se confesser habituellement jusqu'à il y a quelques années auprès des jésuites, et il y avait 2 messes par jour dans cette église. Donc c'est un bien d'église, ça revient à l'église, et l'église c'est vous. Et dans la conversation, il me disait qu'il faisait don gracieux de cette résidence au diocèse. Alors évidemment, c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas, évidemment. Et donc, nous avons pris la décision, évidemment, d'accueillir ce don, étant donné le patrimoine spirituel qu'il représentait, et du coup, de vendre l'actuel CDB, qui n'a pas la même valeur spirituelle que cette maison des jésuites, au plein centre de Pau, et la maison François-Henri, qui de toute façon se vidait de ses habitants, puisque l'ADGESA, l'association de gestion de cette maison avec laquelle nous étions liés depuis bien des années, avant que j'arrive, reprenait ses lits, pour une nouvelle implantation qui regrouperait non seulement cette maison qu'il gérait, mais aussi la maison Saint-Léon de Mazères, Mazères-le-Zon, qu'il leur avait été donné par les pères de Méloc, et pour rassembler tous leurs résidents, c'est à peu près 110, dans une nouvelle maison à Hydron.
Donc financièrement, ça fait des économies, puisqu'on vend le CDB et qu'on a la maison des Jésuites gratuitement.
Alors financièrement, donc on s'est dit, ben, il faut restaurer cette maison et la mettre à...
Donc il y a quand même un coût.
Il y a un coût à l'ordonner, à l'orienter vers, pas seulement un nouveau CDB. Il a été dit dès le départ que cette maison étant de volume beaucoup plus important que le CDB actuel, l'idée c'était de transférer en effet les activités du CDB,
donc dans le centre
cette maison,
du
mais en faire plus largement un centre spirituel dans la suite des jésuites et un centre missionnaire, donc ouvert sur la ville et ouvert sur des apostolats en direction des périphéries. Hein, j'insiste beaucoup sur cette réalité-là. Voilà, donc il a fallu concevoir. Alors évidemment, tous les usagers du CDB ont été consultés. Ils ont été auditionnés même ensuite par la MOA, hein, l'assistant en maîtrise d'ouvrage, que nous avons choisi parce que c'était un projet trop important qui va accueillir trop de réalités différentes pour qu'on n'ait pas quelqu'un qui nous aide et qui soit professionnel. Bon, ça a été suivi évidemment par tous nos services. Et disons qu'au départ, il y a eu un petit comité de pilotage auquel siégeaient les deux doyens de l'époque et puis des représentants des mouvements et sont fidèles qui participaient au CDB dans la première
phase
ouais. Où on pensait restaurer le CDB. Ensuite, on est allé dans une manière plus professionnelle après avoir... évaluer les besoins des différents mouvements et services qui ont été tous auditionnés.
Donc il y a eu concertation, c'est pas un projet tout ficelé comme on peut parfois
même
le reprocher.
Même si, de fait, il n'y a pas eu ensuite un comité de pilotage, mais je répète que cette maison étant appelée à abriter plusieurs réalités, il est évident qu'il y aura un conseil pastoral qui sera représentatif de tous les usagers de cette maison. Hein. Après, on a choisi une communauté. Voilà. Bon, cette communauté, j'ai seulement dit qu'il fallait qu'on ait une communauté religieuse qui puisse animer spirituellement cette maison.
Donc les chanoines de la grâce, alors qui ont une couleur traditionnaliste et qui parfois peuvent
ils sont en blanc.
Faire peur à certains.
Oui, tout à fait. Alors, traditionnaliste, le terme, évidemment, est un peu forcé, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, leur mode d'expression liturgique, enfin, en tout cas leur expression liturgique de communauté canoniale, c'est la messe en forme extraordinaire. Mais je répète...
Ça n'existe plus, ça, la messe en forme extraordinaire.
Non, c'est vrai, la messe selon le
Vetus
Ordo.
Donc c'est le Vetus Ordo.
Selon l'ancien Ordo. Vous avez raison. Mais ceci dit, d'abord, ils ne se réduisent pas à la célébration de la messe, et je ne les fais pas venir s'ils viennent... pour célébrer la messe. D'abord, de fait, comme je l'ai déjà dit, une messe en Vetus Ordo, il y en a déjà une à Saint-Louis de Gonzague, à quelques encablures... Avec la Fraternité Saint-Pierre. À quelques encablures de cette nouvelle maison diocésaine dite Saint-François-Xavier pour l'instant. Donc le but n'est pas de ça.
Donc qu'est-ce qu'ils vont faire, justement?
La vie canoniale, c'est une vie fraternelle qui est un signe pour l'Église, parce que comme dit Jésus à ses disciples après la scène au chapitre 13 de Saint Jean, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, donc c'est un signe de fraternité, et ils ont une vraie capacité, je crois que c'est vraiment dans leur charisme, d'accueillir tout le monde, avec un esprit d'ouverture que nous voudrions tous avoir. Alors on nous dit, ils vont bloquer avec leur liturgie en latin... Mais d'abord, il n'y aura pas que cette liturgie-là qui sera célébrée dans cette église. Tous les groupes qui désireront célébrer la messe, il y aura peut-être une messe aussi en forme du missel de Paul VI, tous les jours dans cette chapelle. La question n'est pas du tout de bloquer. Ils vont exprimer leur vie canoniale qui passe par leur liturgie propre, hein, les offices, le lot des vêpres et la messe conventuelle. Mais ceci dit, il y aura beaucoup d'autres activités dans cette maison, beaucoup d'autres usagers et beaucoup d'autres usages de cette chapelle.
Mais Monseigneur, ils ne font pas non plus l'unanimité dans leur diocèse où ils sont actuellement à Carcassonne.
Oui, qui fait l'unanimité aujourd'hui?
Non mais bon, le clergé diocésain leur reproche un peu quand même
qu'est-ce qui reste du clergé,
d'être dans l'entre-soi.
Mais vous savez ce qui reste du clergé diocésain d'Narbonne? Et ils ont autant de prêtres que de prêtres diocésains aujourd'hui, et eux sont jeunes. Et les prêtres diocésains aujourd'hui, essentiellement, ce sont des prêtres, une bonne partie vient de l'étranger, ce sont des fidèles de nous. Et l'évêque qui vient d'être nommé, Monsieur Valentin, je peux vous dire, est très heureux de pouvoir travailler avec eux. C'est sa volonté, je ne sais pas si c'était c'est le pourquoi le nom s'est nommé Monsieur Valentin à Carcassonne. Et en plus, il a fait un sondage auprès des laïcs, et il me l'a dit, il l'aura dit aussi à eux. Ben, ils sont plutôt bien perçus, parce qu'ils accueillent tout le monde. Et parce que, mais pourquoi ils étaient... Parce que on a, là aussi, il y avait sans doute des précarés dans lesquels on ne voulait pas qu'ils viennent. Donc ils n'étaient pas personnel grata partout, mais ils sont capables de faire un excellent apostolat.
Au niveau de la pastorale paroissiale, à quoi est-ce qu'ils interviendront ?
Si les paroisses ont besoin d'eux. Mais c'est pas le but n'est pas là. D'abord, c'est d'animer cette maison.
On a entendu dire qu'il pourrait s'occuper de la pastorale des jeunes à Pau, qu'il s'occuperait peut-être de la pastorale de la santé.
Mais ils pourront participer à des pastorales de ce type, oui. Ils pourront participer à la pastorale des jeunes, ils pourront participer à la pastorale de la santé, ils pourront participer aussi à un apostolat de plein vent dans les quartiers où ben, nous ne sommes pas assez présents et pas assez visibles, et de manière à être en lien avec des populations.
Les fameuses périphéries.
Voilà, les fameuses périphéries. C'est tout à fait dans leur ADN, si je puis dire. Je sais que c'est ce qu'ils font à Narbonne. Hein, ils ont une vitrine qui permet à beaucoup de jeunes d'entrer avec des contacts très libres. Ils s'occupent aussi d'une CADA à La Grasse. Enfin, ils sont très en phase avec beaucoup de réalité. Et à La Grasse, ils accueillent tout le monde. Et ils accueillent des gens de la région, des gens qui viennent de partout. Mais tout groupe qui veut venir est accueilli.
Pour terminer sur ce sujet, Mgr Ayet, est-ce que vous... Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux connaître ces chanoines, justement, pour faire tomber les barrières de la peur ?
Je rappelle que ces chanoines, quand j'ai émis l'idée que même d'ailleurs désiraient créer un prieuré, parce qu'ils sont une abbaye, les chanoines, vous savez, ce sont des gens qui vivent en fraternité, avec une vie communautaire forte autour de la liturgie, et qui essaiment autour, rayonnent autour pour des apostolats divers et variés. Donc ils voulaient faire un prieuré. Nous étions deux diocèses en lice, le diocèse de Limoges, pour tout vous dire, et le diocèse de Bayonne, le diocèse de Limoges qui aurait été très heureux d'accueillir un jeune de la grâce, donc Monsieur Bozo. Et finalement, ils ont dit que c'était trop loin, que le lieu qu'on leur donnait aurait été trop important pour eux. Et donc, ben, ils ont accepté plutôt de venir sur Pau. Mais avant de prendre cette décision... Le père Abbé a rencontré le conseil épiscopal il y a déjà 3 ans avec un long échange sur tous les sujets et sans sujet tabou. Le conseil épiscopal a donné son accord à l'unanimité. Ensuite, il y a une rencontre avec le conseil presbytéral. Donc il y a eu un échange du père Abbé avec le père Michel, qui est le sous-prieur actuel de la Grâce et qui sera sans doute la tête de pont et même certainement de cette petite communauté qui arrivera progressivement d'ailleurs. Donc au conseil presbytéral qui s'était tenu à Urte, et puis j'ai demandé aussi qu'il y ait une rencontre de tous les prêtres de l'agglomération paloise, qui était plus d'une vingtaine. Il y a une rencontre aussi de toute une matinée, toutes les questions ont été posées, des objections ont été exprimées, mais pour la majorité des prêtres de l'agglomération paloise, c'était plutôt un plus et un enrichissement pour la pastorale du diocèse.
Suite à la réunion qu'il y a eu le 1er juin, dont s'est fait l'écho l'éclair des Pyrénées, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux laïcs qui ne sont pas d'accord avec cette venue des chanoines de la grâce ? Est-ce que vous les considérez comme des opposants, comme des gens mal informés, comme des ennemis ?
D'abord, j'attends de savoir plus précisément ce qui s'est passé pour cette réunion. Je rappelle que cette réunion est le fait d'un groupe de personnes qui se sont cooptées entre elles et qui n'étaient pas manifestement ouverts à tous, puisque c'était quand même essentiellement des gens qui avaient...
C'est des opposants ?
Bah, ils étaient en tout cas, ils se sont présentés comme opposés au projet tel qu'il est présenté. Mais moi, j'attends maintenant la suite de ce qui...
Vous allez les rencontrer dans les jours qui viennent ?
Moi, je suis ouvert à la rencontre, bien entendu, toujours. Même si je sais que parmi eux, il y en a beaucoup qui ne veulent pas me rencontrer. Mais il faudra bien. Et puis, de toute façon, ils représentent un groupe de personnes qui n'est pas le représentatif de l'ensemble du peuple de Dieu, tant s'en faut. Le 14 mars, je rappelle que le 14 mars, une réunion a été faite d'informations ouvertes à tous, publiée publiquement. L'annonce de cette réunion du 1er juin n'a pas été publique. donc je répète qu'elle n'était pas ouverte à tous. Elle a été connue par hasard par le curé de la Sainte Famille qui s'y est invité, ainsi que quelques autres paroissiens qui sont venus, non pas pour polémiquer, mais pour essayer d'être au fait de ce qui se disait. Et le 14 mars, de fait, la majorité des gens présents ont été tout à fait adhérents au projet et à l'avenue des Chemins de la Grâce, mais un groupe minoritaire s'était placé devant, peut-être parce qu'ils sont arrivés les premiers, ont monopolisé la parole de manière extrêmement agressive et violente, qui a blessé beaucoup de gens. Et d'ailleurs, certains sont partis un peu écœurés par cette attitude. Et donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pour l'instant, j'attends de savoir quel est exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils disent. Et puis, s'ils viennent me voir, ben, on pourra avancer.
Nous vous retrouvons dans quelques instants et nous reviendrons sur l'assemblée de printemps des évêques à Lourdes.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons notre évêque, Mgr Marc Hayé, et nous allons revenir avec vous sur l'assemblée de printemps des évêques qui s'est déroulée à Lourdes du 28 au 31 mars dernier. Et lors de cette assemblée des évêques, les évêques ont examiné les recommandations formulées par les groupes de travail constitués essentiellement de laïcs. C'était des groupes de travail pour approfondir la réflexion sur les recommandations du rapport Sauvé. Alors comment vous avez vécu ce travail, cette réflexion ?
Alors qui faisait suite en effet à une assemblée plénière de 2021, je pense, oui c'est ça, au cours de laquelle nous avions déjà eu une petite séquence synodale, puisque nous avions invité 130 fidèles, à la fois prêtres, religieux, laïcs pour la plupart, jeunes et moins jeunes, un petit peu de tous les horizons dans l'Église, pour nous aider à accueillir le rapport de la SIAS. Vous vous rappelez, à l'époque, on était un peu sous le choc de ce rapport qui avait défrayé la chronique pendant un mois, avant que nous nous réunissions, et nous étions la cible, évidemment, de beaucoup de ressentiments au sein de l'Église, sans doute légitimement. Enfin, parce que nous étions les représentants de la hiérarchie de l'Église. Voilà, et à partir de là, nous avons constitué 9 groupes de travail, confiés à un coordinateur, M. Hervé Balladur, chaque groupe de travail prenant une des recommandations de la SIAS comme thème de réflexion et donc de travail par définition. Ces groupes étaient composés de 12 à 20 personnes, dans lesquelles il y a eu toujours un évêque, mais qui n'était pas le chef du groupe, évidemment. Il y avait des pilotes qui étaient des laïcs, et l'essentiel, c'est des laïcs, mais ça peut être des prêtres aussi et des consacrés, évidemment, parce que le synode, c'est marcher ensemble, c'est donc toutes les déclinaisons du peuple de Dieu. C'est pas les laïcs d'un côté et la hiérarchie de l'autre. Je rappelle que, comme je le dis dans mes catéchèses sur le mystère de l'Église, les évêques font partie du peuple de Dieu à part entière.
Donc, vous avez joué la collaboration vraiment entre évêques et laïcs.
Ah oui, vraiment, oui. Et puis on a eu des étapes, et puis ensuite, les groupes, avec les pilotes qu'on a reçus à mi-parcours et avec lesquels on a travaillé. Je me souviens de travaux pratiques assez intéressants sur on choisissait un des groupes de travail. On était plusieurs évêques avec ces pilotes qui nous aidaient à avancer dans leurs propres réflexions. Parce que c'est un travail qu'on leur a demandé, donc ils rendaient compte aussi aux évêques du travail qu'ils faisaient. Et donc, au cours de cette assemblée de printemps 2023, eh bien, ils étaient appelés, au bout d'un an et demi à peu près de travail, à rendre leur copie. Et ça a été fait de manière très interactive, puisque nous étions installés dans la grande église Sainte Bernadette, et puis les groupes de travail étaient répartis un peu tout autour, avec des panneaux qui indiquaient toutes les propositions qu'ils nous faisaient, dont on avait reçu un gros dossier avant que personne n'avait lu suffisamment attentivement parce que c'était énorme, et on l'a reçu une semaine avant l'assemblée plénière. Et puis, on pouvait mettre des gommettes pour sentir un peu l'adhésion, des gommettes vertes près des propositions qui nous paraissaient tout à fait bonnes, des gommettes oranges, là, il faut peut-être reformuler où ça pose problème, et des gommettes rouges, là où on disait non, ça ne va pas, quoi. Bon. Et puis, il y avait des tables rondes devant où on pouvait s'asseoir et, avec ces groupes de travail, discuter sur les différentes propositions qui nous étaient faites. Qui aboutit à une séance de vote où nous n'avons pas nécessairement voté chaque proposition une par une. Ça dépendait un peu des groupes de travail. Où souvent, nous avons accueilli l'ensemble des propositions de manière globale, tout en disant que ça nécessitait un travail avec nos collaborateurs, selon les thèmes, par exemple, typiquement, le groupe de travail numéro 4, non, pas, mais si, par exemple, numéro 4, sur le discernement vocationnel et la formation des futurs prêtres, eh bien, on a préféré que toutes ces propositions soient étudiées par le Centre national des grands séminaires, c'est-à-dire avec ceux qui sont directement responsables de la formation sacerdotale. Pardon. Celui sur l'accompagnement mais du ministère des prêtres, qui doit être le numéro 6. Là aussi, nous avons préféré que toutes ces propositions soient confiées à nos conseils presbytéraux et qu'avec le conseil presbytéral, on puisse voir les modalités de mise en œuvre de ces propositions.
Donc concrètement, il y a combien de propositions qui ont été actées ?
Je ne saurais pas dire.
Ouais. En fait, en tout, il y en avait combien de propositions ?
Ben, plus de 60.
Plus de 60, hein, ouais.
Donc,
Vous diriez la moitié, à peu près ?
Peut-être, à peu près. Oui. Mais il y a certaines qui n'ont pas été... Quand on a voté pour dans un groupe de travail proposition sur proposition, certaines ont été accueillies, d'autres ont été écartées. Car comme vous savez, pour nous, c'est toujours la majorité des deux tiers. Voilà. Donc tout n'a pas été forcément pris, mais c'était la logique du travail. Hein, et c'est normal que les évêques reçoivent les recommandations et disent ben là... par exemple, le groupe de travail 8, sur lequel il y a eu le plus de réticence au niveau des évêques...
L'organisation des prêtres...
L'analyse des causes de violences sexuelles dans l'Église. Pardon. Eh bien, là, on a dit que la commission doctrinale devait se saisir de ces propositions, sachant que certaines sont en dissonance avec l'enseignement du magistère de l'Église.
Donc le travail n'est pas terminé, il va y avoir...
Non, c'est un travail qui continue, forcément. Hein, mais c'est une belle étape.
Le fait que des laïcs soient présents aux assemblées plénières, en fait, est-ce que ça devient une tradition ? Finalement, ça fait quelques années que ça a lieu.
Voilà, donc ça aussi c'est important parce que ça n'a pas été le seul sujet sur lequel nous avons planché, mais le deuxième sujet, c'était le sujet du chemin de transformation de la conférence évêque de France. Et donc la manière d'alléger un peu le fonctionnement de notre conférence évêque de France, la rendre moins verticale aussi parce qu'aujourd'hui on a une présidence, un conseil permanent et tout descend de haut en bas. Aujourd'hui on s'est rappelé que la collégialité elle se vivait d'abord sur le terrain et on a essayé de donner un peu plus de substance à la vie en province. Hein, il se trouve qu'on a... Le premier exercice de collégialité, c'est avec les évêques de notre province. On se rencontre deux fois par an, mais je pense qu'on devrait se rencontrer plutôt trois fois par an au moins. Hein, y avoir peut-être des visios intermédiaires, plus brèves, de manière à travailler davantage ensemble. Et ça remontera davantage à l'Assemblée plénière par le biais d'un conseil permanent qui sera plus représentatif des provinces. Et puis on va alléger aussi le système des commissions épiscopales, qui sont devenues des conseils d'ailleurs, et les services, de manière à avoir une structure plus souple, en se disant qu'on ne peut pas non plus tout traiter dans l'Église, à parité, hein, parce que les réalités sont aussi pas toutes égales, et surtout... avoir un a priori missionnaire qui doit être vraiment la colonne vertébrale de l'organisation de notre conférence évêque de France. Alors là, ben oui, les laïcs ont toujours été présents par l'intérieur des services qui participent à notre assemblée plénière, mais on a
mais
pris...
C'est récent qu'ils soient vraiment au milieu des évêques.
C'est-à-dire qu'on a donné une structure un peu plus synodale en faisant venir, même si tout le monde s'accorde pour dire que la conférence évêque, c'est la conférence des évêques. Donc on ne peut pas non plus transformer la conférence évêque en une conférence...
C'était un peu exceptionnel
synodale.
Quand même.
Oui, c'est-à-dire pour des thèmes particuliers, on avait ouvert...
Pour l'écologie, par
à
exemple.
À des laïcs, pour l'écologie, pour d'autres
thèmes.
Pour
les
thèmes.
Abus, pour...
Ouais. Monseigneur Hayet, est-ce que vous avez...
Mais je termine là sur ce point-là, si vous permettez. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons décidé, une fois tous les trois ans, de réunir... pas à la place d'une assemblée plénière une assemblée synodale. Voilà.
Monseigneur Ayet, est-ce que vous avez sur vous votre carte d'identification d'évêque ?
Ben, je l'ai sur moi dans mon
c'est une des nouveautés dans mon portefeuille. Aussi,
Alors c'est une nouveauté qui ne fait pas consensus, même si il semble en effet que nous avons voté le principe d'un célébrette national.
Qu'est-ce
un célébrette national qui ne pourra pas être falsifié. Comme nos... Alors le célébrette, c'est une petite carte qui atteste que nous sommes prêtres et que nous avons la possibilité de célébrer la messe. D'accord. Et de confesser les sacrements partout. C'est-à-dire que dans un sanctuaire, normalement, on nous demande notre célébrette, ce qui ne se fait pas suffisamment d'ailleurs, généralement, parce que c'est... Et délicat, le célébrette papier, bah, il n'est pas toujours renouvelé chaque année, ce n'est pas toujours très très fiable, finalement.
Ça existe depuis longtemps, mais
toujours, mais ça a toujours,
mais
toujours existé.
Mais ce n'était pas utilisé. Quoi.
C'était utilisé. Moi, j'ai mon célébrette papier, j'avais mon célébrette papier, les prêtres l'ont aussi. Et en général, quand ils vont dans un pays étranger, ils demandent au chancelier de leur faire un célébrette. Bon. Mais c'est vrai qu'on n'est généralement pas... on n'est pas pointé quand on entre dans une sacristie pour qu'on célébrer, par exemple, dans une paroisse, dans une cathédrale, dans un pays étranger. Bon.
Alors, il ne suffit plus d'avoir un col romain ou une soutane.
Non, d'autant plus que la soutane et le col romain ne font pas le moine. Bon, mais ils font le prêtre plutôt. Mais ceci dit, le célébrette sera avec un QR code qui permettra de savoir si ben, notre célébrette est en règle pour pouvoir célébrer la messe ou confesser. Donc il y aura notre identification, la date de notre ordination, enfin notre état civil, la date de notre ordination. Et puis, lorsque quelqu'un scannera ce QR code, eh bien, il verra si c'est vert, qu'il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des restrictions à confesser, à célébrer la messe, liées à des sanctions qui pourraient être liées à des abus sexuels, puisque c'est en marge de ça, évidemment, que ce sera mis en place, eh bien, ce sera orange. La personne qui sera la sacristie ne saura pas.
Pourquoi ça ne fait pas consensus parmi les évêques ?
C'est pas tellement parmi les évêques que ça ne fait pas consensus, mais j'entends des prêtres qui se disent bah, « ça veut quoi ? On va être contrôlé, c'est un contrôle de plus, etc. » C'est une facilité qu'il va falloir essayer de prendre le mieux possible en bonne part. Je pense que ça entrera vite dans les habitudes.
Le 25 mai dernier, les évêques se sont exprimés sur l'écologie intégrale, un communiqué qui s'appelle « Ensemble pour notre terre » avec une quarantaine de propositions. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Comment ça va se déployer ?
Non, pas grand-chose. Ce texte vient du 25 mai, nous sommes le 8 juin. Vous imaginez bien que les évêques ne sont pas disponibles pour lire des littératures comme ça aussi vite. Et je sais seulement que ça va reprendre l'ensemble des travaux qui ont été menés pendant 3 ans au cours de nos assemblées plénières. Voilà.
En tout cas, c'est consultable sur notre site de diocèse.
Et c'est évidemment c'est un engagement des évêques pour l'écologie intégrale dans la suite évidemment de l'encyclique Laudato si.
Le journal La Croix, à l'occasion de la fête de Pentecôte, a publié un sondage exclusif pour étudier les orientations des jeunes catholiques qui vont se rendre à Lisbonne au Jour mondial de la jeunesse cet été. Alors, les résultats montrent une jeunesse confiante en l'Église, conservatrice et très pratiquante, un peu à rebours de la société. Vous l'avez consulté, ce sondage ? Je pense qu'il vous a intéressé.
J'ai consulté, bien sûr, une partie de ce sondage. Et j'ai vu pas mal de commentaires aussi. C'est assez intéressant de voir, et pour moi, ça ne fait aucun doute, puisque je rencontre quand même beaucoup de jeunes, et en particulier dans notre diocèse, que ben, la jeunesse est en recherche de repères, de transcendance, de beauté de liturgie, d'un enseignement clair, est très à l'aise avec l'Église-institution, n'a pas de compte à régler avec elle, n'est pas impactée outre mesure, même si elle prend la mesure quand même de la gravité de la souffrance des victimes, mais par la crise des abus sexuels, comme leurs aînés, et n'a pas de revendication par rapport à l'Église. Et en même temps, ce sont des jeunes qui ont vraiment le souci des pauvres. On voit beaucoup d'initiatives hein, qui naissent, le village de François, Fratello, etc. Et je les vois ici, ils sont à la fois dans une liturgie qui leur parle du sens du sacré, et en même temps, ils vont faire les maraudes à Biarritz ou à Bidart. Et voilà. Donc et puis sur les questions sociétales, ben, ils sont aussi très clairs et à contre-courant certainement de notre société d'aujourd'hui.
Donc vous êtes confiant sur l'avenir de notre.
Ben moi je suis confiant. Je suis confiant parce que je rencontre beaucoup de jeunes et évidemment je vois bien que cette jeunesse est un petit peu à rebours des vieilles lunes. J'allais dire progressiste des années post-conciliaires qui perdurent à travers certains mouvements et certaines réactions aujourd'hui, mais plutôt dans un monde, je dirais, âgé quand même, il faut reconnaître, et aussi quand il s'agit de gens plus jeunes, des gens qui sont plus soucieux d'adaptation aux évolutions actuelles du monde que peut-être à la clarté de l'évangile transmis par l'enseignement de l'Église.
Ça signifie que pour être un jeune catholique aujourd'hui, il vaut mieux être à droite ?
Moi, je ne parle pas de politique. Hein. Je pense que le sondage dit qu'en effet, les jeunes seraient plutôt à droite qu'à gauche. Mais je ne pense pas que ce soit leur première préoccupation. Ils sont loin, à mon avis, des clivages de leurs aînés, progressistes, traditionnalistes. Vous voyez, par exemple, le phénomène du pèlerinage de chrétienté à Chartres est très révélateur. Vous avez 16 000, donc c'est en croissance, 16 000 pèlerins.
Beaucoup n'ont pas pu s'inscrire.
Beaucoup n'ont pas pu s'inscrire parce que pour des raisons de sécurité, ils n'ont pas pu les accueillir. 16 000 pèlerins dont la moyenne d'âge est de 20 ans et demi. Et ces jeunes ne vont pas là-bas parce qu'ils vont avoir la messe de Saint-Pie V. Parce que la plupart ne sont pas accros. Mais ce n'est pas leur problème. Que ce soit une messe de Paul VI ou une messe de Saint-Pie V, s'il y a un sens du sacré, que ça peut élever leur âme, qu'ils y retrouvent des repères spirituels, le sens de la transcendance.
Traditionnels ne leur pose pas problème alors.
Non, pas du tout. Et je dirais, alors bien sûr qu'à la marge, vous aurez des militants de la messe de Saint-Pie V, il y en a forcément. Mais quand on interroge ces jeunes, qui ne sont pas forcément des adhérents de la messe de Saint-Pie V, 38% ne voient pas d'inconvénient à ce qu'ils puissent avoir la messe de Saint-Pie V. Vous voyez, c'est là où je crois que le monde a changé au sein de l'Église. Peut-être que certains qui sont arc-boutés sur leur vieille lune et qui sont quand même un peu dans l'entre-soi et qui manifestent pas beaucoup d'ouverture et de tolérance vis-à-vis de ces jeunes qui arrivent, dont ils vont dire qu'ils sont sous emprise d'ailleurs assez facilement, ce qui est une accusation extrêmement grave.
Pourtant, le pape ne pense pas tout à fait ça. Parce que
mais le pape, je parle.
Il est dans sa bulle ?
Non, parce que là, vous êtes en train de parler, vous parlez du Missel Saint-Pie V, mais ce n'est pas leur combat à eux. C'est pas leur combat. S'ils viennent à Chartres, c'est pas pour la messe de Saint-Pie V. S'ils viennent à Chartres, c'est parce qu'il y a un vrai mouvement spirituel et le moyen de satisfaire une grande soif. Donc, encore une fois, ne faut pas tout mêler. Le combat sur la traditionnelle custodes, ils n'ont pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est une manière de réguler l'usage de cette messe à cause sans doute à la marge de ceux qui en font un objet de résistance par rapport au Concile Vatican II et à l'Église fondée sur le pape, mais c'est pas le problème de ces jeunes. Donc je reviens à la question première, ne me détournez pas de la question, il faut reconnaître ça. Et je pense qu'il y a une ouverture, une tolérance. Je recevais une jeune fille hier qui n'est pas allée à Chartres et qui me disait, moi, ce que je trouve dans ce diocèse, c'est qu'il y a toutes les formes possibles d'expression de la prière. Elle est plutôt dans le groupe Sacré-Toi, donc dans le renouveau, plutôt dans la mouvance du renouveau charismatique. Et en même temps, quand je lui parle des chants de la grâce qui arrivent, elle les connaît, parce qu'elle est allée aussi chez eux. Elle dit, je regrette de ne pas être à Pau. Parce que c'est magnifique qu'ils viennent. Mais j'étais pourtant pas une accro de la messe Saint-Pie V, mais c'est pas le problème. Enfin, non.
Est-ce qu'on n'est pas dans une église de chapelle aujourd'hui ?
Non, justement. Il faut éviter.
Où chacun va un peu comme au supermarché à sa messe en latin, à sa messe en basque,
à sa messe... Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Le tout, c'est de voir qu'il y a des ponts entre eux. C'est-à-dire que les jeunes qui vont au PHH de Chartres, ils vont aussi à Paray-le-Monial. Et ils vont dans leur paroisse. Et ils peuvent aller aussi à une messe de Saint-Pie V s'ils ont envie.
Comment faire l'unité, justement, dans une paroisse, avec tous ces...
L'unité dans l'Église, la communion dans l'Église, ce n'est pas un consensus psychologique. Elle est fondée sur la foi et la charité. La foi, c'est la foi que l'Église nous transmet. et elle est exprimée dans le catéchisme de l'Église catholique. La charité, c'est le fait qu'on est ouvert les uns aux autres, on respecte les autres, on ne les juge pas a priori, on ne les condamne pas a priori, on ne leur met pas des procès d'intention sur le dos, et on est capable de vivre avec des gens qui pensent différemment, voilà, et qui vivent différemment que nous.
Un mot sur la venue du pape à Marseille, donc c'est officiel. Il viendra le 23 septembre dans le cadre des rencontres méditerranéennes. Vous allez y aller, Monseigneur Hayet ?
Bien sûr, grâce à Dieu, le pape qui devait venir seulement pour la rencontre des églises de la Méditerranée, donc un colloque qui est organisé à la fois avec des étudiants et des évêques de la Méditerranée, enfin, qui ne nous concerne pas, nous, puisque nous sommes sur l'Atlantique. Mais,
Vous avez un lien quand même avec la Méditerranée.
Oui, par mon passé. Mais pour autant, Monsieur Aveline, le cardinal Aveline, s'est dit, le pape ne peut pas venir seulement pour la Méditerranée, il vient à Marseille et il vient en France. Alors il a supplié le pape, si je puis dire, par un courrier, d'accepter de prolonger son séjour de quelques heures, puisqu'il vient que la journée, du 23 septembre. Il a demandé que le pape puisse célébrer une messe dans le Vélodrome, le stade Vélodrome de Marseille, et inviter tous les évêques de France, et puis d'organiser des pèlerinages, des groupes de diocésains.
Est-ce qu'il y aura possibilité dans le diocèse d'aller à Marseille pour cette messe ? Il y a des choses qui vont être mises en place.
Je crois que la direction des pèlerinages diocésains organise sans doute un quart pour pouvoir s'y rendre.
Nous retrouvons notre évêque dans quelques instants et nous parlerons de la vie du diocèse.
Radio La Pourdi.
Nous terminons cette émission avec vous, Monseigneur Hayet, pour parler des événements qui ont eu lieu en cette fin d'année et qui vont avoir lieu, les ordinations, bien sûr, le 24 juin. Un petit retour rapide sur les baptêmes qui ont eu lieu et les confirmations, puisque nous avons eu un bon nombre de catéchumènes cette année dans notre diocèse.
Oui, c'est toujours en croissance, comme vous le savez, et c'est une des consolations, évidemment, de l'évêque, mais aussi, je pense, des curés et de beaucoup de diocésains, de voir ce nombre grandissant de catéchumènes, parce qu'on parle sans doute des catéchumènes adultes qui ont été baptisés à Pâques, mais il faut voir aussi tous les jeunes collégiens et lycéens et enfants du catéchisme qui sont baptisés chaque année. Par exemple, j'ai baptisé la veille de la Pentecôte une dizaine de collégiens de lycéens de l'Immaculée Conception, mais je crois que tous les établissements d'enseignement catholique voient aussi une recrudescence de jeunes qui... Je vois arriver dans la sacristie un jeune de 14 ans, un jeune d'origine africaine, qui vient me remercier pour cette célébration et qui me dit « j'ai personne de ma famille, parce que personne de ma famille ne m'accompagne aujourd'hui ». Donc c'est dire le courage aussi, et la qualité et l'authenticité de la démarche de ces jeunes aussi. Et puis les confirmants, on a quand même confirmé cette année une cinquantaine d'adultes, qui sont pour la plupart des jeunes. Et c'est vrai, ont une soif, moi j'ai pu passer une matinée avec eux, au cours de la récollection, leur parler de la vie de la grâce et de don du Saint-Esprit, et j'ai vu la soif de ces catéchumènes et l'adhésion, je dirais, au message de l'Église assez facilement.
Vous ne vous lassez pas de confirmer, parce que certains jours, je vois que vous faites 3 confirmations dans la même journée,
oui,
vous tenez le rythme.
Oui, mais c'est tellement magnifique de donner ce sacrement et de voir des âmes qui s'ouvrent à la grâce, donc... C'est ça l'Église, comme je l'ai dit dans l'éditorial de la revue de juin, et selon une formule de Romano Guardini, un grand théologien qui a marqué Benoît XVI, qui dit « L'Église se réveille dans les âmes, le vrai visage de l'Église, il est d'abord intérieur, c'est la vie de l'Esprit Saint en nous, et c'est magnifique de pouvoir l'avoir se déployer ».
Et puis le 24 juin, donc, nous aurons 2 nouveaux prêtres pour notre diocèse.
2 nouveaux prêtres qui viennent de très loin, donc Fedi Mata qui vient d'Égypte, et José Celestino Quinan León, qui vient de Venezuela. Ils sont arrivés par tirage au sort, à travers leur mouvement du chemin néo-catéchuménal, où ils ont grandi dans la foi et dans leur vocation, et pour servir le diocèse de Bayonne comme prêtre diocésain. Donc ils seront
ordonnés. Ils sont incardinés à notre diocèse.
Incardinés au diocèse, bien sûr. Ils ont fait toute leur formation ici. Et donc ils seront ordonnés le 24 juin à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne à 10h.
Et la célébration sera retransmise sur Radio La Pourdie et également sur le YouTube du diocèse.
Un dernier mot, Monseigneur, pour conclure sur les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse.
Il y a les prêtres jubilaires aussi.
Oui, les prêtres jubilaires le 29 juin à la cathédrale, jour de la fête de Saint-Pierre-Saint-Paul, date traditionnelle des ordinations en France, autrefois en tout cas. Eh bien, il y a quand même un bon nombre de prêtres jubilaires, de 50 ans de sacerdoce en particulier, dont deux qui ont défrayé la chronique récemment à Cibourg, hein, Michael Epalsa et
Jean-Baptiste
Etchénique. La messe aura lieu à 17h.
À 17h, voilà.
Donc le 29 juin à la cathédrale de Bayonne.
Messe d'action de grâce.
Et on peut voir la liste des prêtres jubilaires sur le site du diocèse.
Voilà.
Et pour enfin, les JMJ, donc, vous partez avec
350 jeunes. Donc là, je note quand même que le service pastoral des jeunes, qui comprend des prêtres et des laïcs, hein, comme vous savez, a vraiment un beau dynamisme. Si, pour faire une comparaison, en 2016, à Cracovie, nous avons emmené 172 jeunes. Et encore, on avait ouvert à partir de 16 ans. Là, on a pris à partir de 17 ans accomplis et on en a 350. Hein, c'est dire que, et toute l'année, il y a eu 4 journées de rencontres pour préparer ces JMJ. Donc il y a un bel élan là. Et j'en félicite évidemment les membres du service. Et ce qui veut dire qu'il y a, dans la jeunesse, dans notre diocèse, un frémissement.
Avec messe donc d'envoi au JMJ le mardi 25 juillet, donc à la cathédrale de Bayonne.
Voilà. Le soir, je ne sais pas encore l'heure, parce que nous prenons le bus.
Ça sera retransmis également sur Radio Lapourdi. Vous souhaitons à toutes et à tous un très bon été, également très bon été. Monseigneur, pas trop de vacances alors cet été.
Mais j'en prendrai quand même un peu, parce que je suis assez épuisé.
Nous vous retrouvons à la rentrée et puis vous nous donnerez des nouvelles donc des JMJ à Lisbonne. Merci Violet Ricourt-Dumas et merci Monseigneur.
Merci beaucoup.